Bonjour, donc merci pour cette intervention. Donc juste une question, donc vous travaillez sur quelle source? Vous travaillez sur quelle source? D'accord. Donc dans le... D'accord, ok. Ok. Donc, une question juste pour les droits de la femme, donc pour l'héritage, donc pour la première donc intervention, je crois. Donc, moi, j'ai travaillé sur la propriété de la femme, donc selon donc l'archive donc du Waqf. Donc, j'ai trouvé donc au cours de l'histoire, il y a des changements. Par exemple, au VIe siècle, il y a, j'ai trouvé donc des documents, la femme allait exclue définitivement. Donc, dans le madhhab al-maliki, donc dans le rite donc malikite, c'est la femme allait exclue donc définitivement. Oui, dans le XVIe siècle. Et après, ça change XVIIe, XVIIIe avec donc le rythme hanafi, donc ça change. Donc la femme elle a les droits donc de la propriété, de l'héritage, mais sauf si elle est mariée, n'a pas le droit. Oui, voilà. Donc ça c'est.
D'accord. Parce que là, ça revient à
Oui.
ce que vous avez
Parce
raconté.
il y a vraiment il y a des changements. Donc moi, je travaille donc sur les pratiques du Waqf dans la ville de Tunis. Donc du 16e siècle jusqu'au 20e siècle, il y a des changements. Donc c'est intéressant. Donc, merci.
Je vais juste. Tu peux t'identifier pour ton nom.
Salim Salah. Donc,
Okay.
je travaille une
Oui,
thèse
c'était
donc,
juste
sous
pour.
la
Après, nous
direction
irons, on reviendra
de
là-dessus.
Madame Randi Issami Berkaoui.
On
Donc,
reviendra.
donc.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, Chantal? Tu peux t'identifier aussi, s'il te plaît?
Alors, je suis Chantal Damny. Je viens de soutenir une thèse à l'Université Paris 7 Diderot. Ma question, en fait, s'adresse aux deux, sachant que dans les études de genre montrent clairement que les femmes elles-mêmes intériorisent les systèmes d'oppression dont elles sont victimes. Est-ce que vous avez pu interroger des femmes, pour, notamment par rapport à l'action des cinq femmes qui ont porté devant les juridictions, qui ont contesté cette loi d'exclusion? Pour comprendre, déjà, est-ce que parmi les femmes, elles avaient du soutien, elles étaient soutenues par des autres femmes, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qui explique que ces systèmes se perpétuent, et voilà, est-ce que, comment les femmes reçoivent ça, qu'est-ce qu'elles en pensent?
C'est une question pour les deux.
Oui, ouais, pour les deux, voilà, pour les systèmes de dot aussi, voilà, comment. Dans vos recherches, est-ce que vous interrogez aussi des femmes pour comprendre ce qui fait qu'elles acceptent d'une certaine manière ces systèmes d'oppression, en fait?
C'est dans ma région de terrain. C'est le contraire, c'est elles, les réceptrices de l'héritage du bien, de ce bien immobilier, de ce bien foncier. Et je ne dirais pas qu'il y ait une sorte d'oppression là-bas dans le système uxori matrilocal. Alors, dans le système viripatrilocal et l'institution de la dot par les codes civils, oui, le problème, c'est que pour pouvoir marier sa fille, ben, on doit payer cher, c'est-à-dire hein, lui faire un appartement. Ce qui était oppressant pour les femmes, et voilà pourquoi avec le PASOK, le Parti socialiste, il y avait le changement du code civil et du droit familial, Et donc la dot, telle qu'elle a été institutionnalisée après les années 50, c'était annulée, il n'y en avait plus. Donc la dot, telle que je vous l'ai décrit pour les cendres urbains, en effet, c'était une mesure d'oppression plus que de libération. Hein. Parce que toutes les femmes ne pouvaient pas avoir un appartement. Voilà. Et où elles devaient travailler trop pour pouvoir en obtenir. Hein. Et alors, la naissance d'une fille, c'était une catastrophe. Voilà.
Alors, pour... Un, deux. Pour ma part, en Espagne, à Valence, la réaction des femmes et des hommes fut assez, comment dirais-je, et ne fut pas divisée en fonction du genre. Il y a eu autant d'hommes pêcheurs, d'ailleurs je l'ai mentionné, 15 pêcheurs ont été exclus de la communauté pour avoir appuyé ces femmes qui revendiquaient ces droits. Et en revanche, des femmes du village les traitaient de tous les noms pour dire « Mais comment est-ce qu'il est venu à votre esprit de remettre en cause une tradition qui a 800 ans ?» Alors, je crois qu'il faut placer les revendications de ces cinq femmes dans un contexte beaucoup plus général qui va bien au-delà de la question de l'accès à la propriété dans cette communauté de pêcheurs. À cette époque-là, en Espagne, la question de l'égalité homme-femme a traversé et traverse encore un chemin assez douloureux puisqu'il s'agit de la violence du genre. J'allais dire en espagnol, mais ça vient mal. Je suis désolé, hein, l'espagnol me revient en permanence en tête. Mais elles ont profité, entre guillemets, du contexte qui était lié à justement à une revendication massive et très claire des droits, l'égalité des droits hommes-femmes pour inscrire justement, pour remettre en cause cette tradition séculaire dénigrante. Mais encore aujourd'hui, dans d'autres domaines mais liés à la question de l'égalité des genres, on trouve des conflits des divergences qui vont bien au-delà de la question homme contre femme. C'est plutôt le poids de la tradition, des us et coutumes qui feront que les uns et les unes iront dans un sens et les uns et les autres dans un autre.
J'aimerais vous remercier beaucoup pour toutes vos interventions vraiment passionnantes. Moi, j'ai un peu des questions pour tout le monde, pour chacun. Mais donc, je m'appelle Myriam Apapsa, je suis géographe et je travaille sur l'héritage dans le monde arabe. Enfin, j'ai travaillé sur ces questions et l'exclusion des femmes de l'héritage. Et ce qui m'a beaucoup, enfin, j'étais passionnée par vos papiers, mais surtout l'idée de remettre en perspective l'ensemble des biens dont on peut hériter. Parce que vous avez parlé de la maison, mais est-ce que vous avez parlé des terres agricoles et des autres terres, ou bien des biens qui peuvent être des bateaux? Et ce qui m'intéressait, moi, c'est, je me suis posé la question sur la Grèce égéenne, est-ce que c'est parce que les hommes vont avoir, par exemple, justement, des droits de pêche ou des droits de, je sais pas moi, d'avoir un bateau? Est-ce que les hommes vont avoir d'autres biens? Est-ce que vous distinguez donc les terres agraires des maisons? C'est une première question. Et pour vous, monsieur, est-ce que les femmes, c'est la même question, est-ce qu'elles pouvaient hériter d'autres biens en plus du droit? Est-ce qu'elles avaient récupéré des terres? Est-ce qu'elles récupéraient des appartements? Quels étaient le... Voilà. Et aussi une autre question, si on divorce, que se passe-t-il? Parce que, est-ce qu'on peut garder son bien ou pas? Ah oui, c'est pas évident. Et pour l'Algérie, je voulais savoir si le code ottoman avait été appliqué et si le code du droit personnel avait été appliqué de Mejelle 1869 ou pas du tout. Est-ce qu'en Algérie, le code ottoman a été appliqué? Le droit personnel en 1869. Donc en fait c'était sous le oui c'est ça 1832. Mais oui 1830. Oui. C'était déjà la France quoi. C'est déjà la France.
un ancien. D'accord, bah, excusez-moi pour la question alors.
Moi, j'avais une question. Alors, prends le micro, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question aussi, mais Odiane également.
Ah, d'accord.
Merci. Oui. Alors, bonjour à tous. Je suis Oudène Bourofala, l'Université de Mascara, Algérie. Merci pour les communications présentées. Et j'ai une question à Mme Fatiha. Est-ce que d'après l'étude que vous avez faite sur la situation de la femme ou la propriété de la femme en Europe, est-ce que vous avez constaté que la fortune ou bien la propriété de la femme en Europe, soit en Angleterre, en Italie ou en France, est indépendante de sa famille ou de son mari par rapport à la fortune ou la propriété de la femme au monde musulman? Vous avez fait une comparaison. Est-ce que vous avez constaté que la propriété de la femme en Europe, soit en Angleterre, soit en Italie, soit en France, est indépendante de son mari, de sa famille? C'est-à-dire que la femme, elle est libre de gérer, de... Voilà, de... Oui. Okay.
Peut-être on réunit des questions et ensuite on vous passe la parole aux trois intervenants.
J'ai une deuxième question
à
Mme Catherine. Je n'ai pas compris exactement la relation entre la dot et le droit de succession. Vous avez parlé dans une phrase. Merci.
Madame, si vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît.
Isabelle Crière, de l'Université François Rabelais de Tours. En fait, non, ce n'était pas tellement une question, c'était pour répondre au monsieur par rapport à des rapprochements envisageables entre les cultures françaises, enfin, européennes en tout cas, et du monde arabe ou d'Afrique, sachant quand même, en tout cas, il y a une spécificité française avec la loi Salique qui prône la succession animale, non seulement des terres, mais aussi du gouvernement politique. Il y a un petit peu plus d'ouverture par rapport à l'Angleterre. Par exemple, j'étais frappée d'une réaction tout à l'heure en disant qu'apparemment, il y a une évolution aussi dans le monde arabe, où il y a un XVIe siècle qui est très fermé comme le nôtre.
Non, c'est bon, ça marche.
C'est bon. Et puis... peut-être une relative ouverture au 19e, puis un retour à un conservatisme. Je me demande s'il n'y a pas des affinités quand même dans le mouvement de l'histoire. Voilà, donc c'était plus pour répondre au monsieur, sachant qu'il y a quand même une radicalité française, typiquement française, de l'exclusion des femmes de la propriété et de la gouvernance politique. Avec une ouverture, il me semble, plus importante en Angleterre, par exemple. Mais voilà.
Merci. Merci. Je crois qu'aussi, Salem, il parlait particulièrement de Malekite. Pas tout le monde musulman parlait de Malekite. Je me permets de poser aussi une question, deux questions. La première question pour Fatiha, c'est en ce qui concerne, je peux dire, la perte des droits des femmes vis-à-vis de l'héritage des droits de posséder, accéder aux biens, qui était le cas à l'époque médiévale. Et ensuite, vers le 17e, 18e, surtout 18e siècle, il y a une perte des femmes en Occident, notamment au Royaume-Uni. Comment ceci est lié à... Ou est-ce que c'est lié à l'industrialisation en Angleterre et la centralisation des richesses dans les mains des individus, dans les familles, à l'exclusion des femmes, qui rappelle le monde musulman pour certaines choses, l'appartenance des biens à l'intérieur d'une famille. Les filles peuvent aussi en avoir tant qu'elles restent dans la famille, tant qu'elles se marient avec des cousins de la lignage mâle. Ça, c'était une question. Et aussi une question à Frédéric. Une remarque. Alors que dans le monde ottoman, il y a un permis, une licence, un contrat qui s'appelle KEDEC. Beaucoup de gens commencent à travailler ou ont travaillé là-dessus. Et c'est une sorte de licence. Nous avons aussi dans nos archives, c'est un droit qui donne, c'est un permis qui donne droit à exercer un métier. Il y a un autre qui donne le droit à exercer dans un lieu, Kadek Wokhelou. Mais là, Kadek. Alors, c'est intéressant parce que là, le Kadek peut... Il n'y a pas de problème si une fille prend ou reçoit le Kadek ou le droit d'exercer un métier en héritage, même si elle ne va pas l'exercer. Elle va, ce sera quelqu'un, elle peut le louer, elle peut louer le droit. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut louer aussi les permis de pêche? Ça, c'était mes questions qui entraînent tout un encadrement juridique. Merci. Il y a d'autres.
Moi, j'avais une question à Frédéric sur que finalement, quand même, le fait d'avoir choisi de traiter cette question par le biais du droit au travail, en fait, hein, de droit à accéder à une profession plutôt que du droit de propriété. Déjà, est-ce que ça... Ah oui. Est-ce que ça a un effet... En termes de jurisprudence, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un précédent, donc y a pas, on ne pourra pas s'appuyer sur ce jugement pour défendre l'égalité de droits entre hommes et femmes de droits de propriété, parce qu'il n'y aura pas eu de précédent. Et puis, justement, ça revient à l'idée que c'est devenu... Bon, ça, c'est l'histoire, hein, c'est-à-dire que défendre l'égalité de genre en matière d'accès au travail, c'est quelque chose déjà d'ancien, pour lequel les femmes se sont battues, pour lequel il y a beaucoup de... Il y a quand même une histoire, tandis que l'accès à la propriété, il y a des résistances. Alors, est-ce que c'est lié à la nature même? Parce que la propriété, ben, c'est le domaine privé, c'est le domaine, ben, vous l'avez dit, hein, c'est... même à l'intérieur de l'entreprise, on peut avoir ses propres lois et tout. Bon, bien sûr, il faut respecter les lois qui s'imposent à tous. Est-ce que le choix de le choix déjà d'avoir de pas s'être référé aussi au texte européen, de s'être référé à un texte américain, est-ce que ça va faire jurisprudence et est-ce que il y aurait pas quand même un combat à mener pour que le droit de propriété soit défendu, l'égalité d'accès à la propriété soit défendue dans les tribunaux. Voilà. Voilà. Est-ce que je réponds aux questions qu'on m'a posées et puis, hein, voilà. Ah oui, d'accord. Alors, moi, j'ai pas très bien compris la question sur en France. Bon, en France aujourd'hui, il y a une égalité. Enfin, il y a si on prend au niveau du droit il y a une égalité entre hommes et femmes dans l'accès à la propriété. Mais bon, dans le passé, on vous a répondu là sur la loi Salique et surtout sur le code Napoléon, quand même, Alors, sur quoi j'ai pas beaucoup insisté, peut-être, c'est que c'était vraiment les femmes mariées, parce qu'à côté de ça, à la différence du monde musulman, justement, les femmes célibataires ou les femmes étaient à égalité avec les hommes, sauf que, à égalité formellement, hein, pas sauf que pour exercer un droit de propriété, il fallait qu'elle puisse accéder aussi, si elle voulait investir, lancer une affaire, il fallait qu'elle puisse accéder à des métiers. Donc là, il y avait des fermetures. Mais disons que cette privation de droit, c'était les femmes mariées, hein, dans le droit, enfin, dans la couverture anglaise et le code Napoléon. Et pour répondre à Randy, moi, je pense effectivement, moi, l'hypothèse, et j'étais contente de trouver un peu ce même commentaire chez une auteure qui a travaillé sur l'histoire du droit en Italie, de dire qu'en fait, à un moment donné, on a voulu simplifier. C'était le passage des statuts au citoyen, à la citoyenneté. On a voulu simplifier. Et le statut de la femme mariée a posé un problème parce que c'était complexe. Et donc, en Angleterre, parce que la couverture, c'est une fabrication d'un juriste. C'est pas quelque chose qui est issu de la tradition. C'est un juriste qui a inventé cette histoire. Après, ça a eu du succès. Et bon, effectivement, les femmes se sont battues. Bon, j'ai pas beaucoup insisté, mais il y a eu tout un combat des femmes pour l'égalité entre femmes mariées et femmes et les autres. Hein. C'est intéressant. C'était pas l'égalité avec les hommes. Voilà, et je ne sais plus ce qu'on m'avait posé comme question. Oui.
Je rebondis un petit peu parce que avec le code Napoléon, c'est non seulement une éradication du corps par rapport à la propriété matérielle, mais aussi intellectuelle. Je pense à Juliette Adam, par exemple, son œuvre se fait vraiment approprier par son mari, parce que c'est une femme mariée, elle
n'a
pas le droit
à
la propriété intellectuelle.
Oui.
En 1848.
Oui, même John Stuart Mill qui a écrit. Oui, John Stuart Mill qui a écrit L'asservissement des femmes, c'est sa femme en fait qui l'avait écrit, mais c'est lui qui l'a signé sur l'asservissement des femmes, il faut le faire.
Alors je vais tâcher de répondre aux différentes questions qui m'ont été posées. À la question de savoir si, à part le droit de pêche, les femmes ont. Souffrent d'un obstacle ou l'autre, non. Elles ont accès à la propriété d'un terrain, d'une maison, d'une barque. Igual tu puedes, no sé si puedes confirmar esto. Il y a des femmes qui n'ont pas accès évidemment. Maintenant elles ont accès au droit à la pêche, mais c'est d'ordre symbolique. Elles montent des circuits touristiques dans la Camargue avec des anciennes barques de pêche. À propos de la loi Salique, en Espagne, elle s'est appliquée assez longtemps puisqu'il a fallu attendre, par exemple, jusqu'à la loi de 2006, la loi numéro 33, qui établit l'égalité des sexes dans l'ordre de succession et des titres nobiliaires. Et en 1991, le tribunal suprême espagnol avait affirmé la prévalence de la Constitution sur toute norme singulière, donc us et coutume, qui régit un privilège et dont le maintien constitue une discrimination sexuelle dans l'accès à une dignité ou charge, maintien qui apparaît, je cite, traduction de votre serviteur, maintien qui apparaît comme une minéralisation des règles traditionnelles et insoutenable, voire même le signe d'une intolérance, à éradiquer. Quant à la question de l'allocation de droits de pêche, non, on ne loue pas le droit de pêche, ça reste. C'est un droit qui reste fondamentalement dans la famille. Je n'ai connaissance d'aucun cas d'un foraster en valencien ou en catalan, c'est un étranger. Mais ça peut être un espagnol. Personne extérieur à ce village est venu s'installer pour exercer un droit de pêche. Donc ça reste en famille. La question, c'est. La question à résoudre, c'est l'inégalité homme-femme au sein des familles.
Si il y a maladie, si la personne qui détient le droit. Détient ce permis de pêche.
Alors c'est le neveu ou c'est le fils ou c'est un parent mais masculin qui va exercer le droit de pêche au profit de la veuve ou de la fille ou de la petite fille.
Est-ce encadré juridiquement ? Il y a des documents là-dessus ?
C'est coutumier. Il y a juste les seuls documents qu'on a jusqu'à présent. Ce sont des procès verbaux des assemblées générales de la communauté de pêcheurs.
Oui,
voilà, c'est tout. Mais c'est procès verbaux qui ne vont pas nécessairement régler, ils vont juste indiquer faire trace des conflits des zones de pêche exercées par l'un ou l'autre, mais les règles, disons, d'accès à cet exercice de pêche sont des règles, enfin des us et coutumes qui n'ont jamais fait l'objet d'écrits.
Mais les procès-verbaux sont écrits.
Oui, les procès-verbaux aussi, mais ils ne traitent.
Donc se reflète.
Oui, ou peut-être il y a un reflet sur savoir, mais c'est plus un reflet sur les questions d'étendue de pêche que sur l'exercice en soi, si Madame Intel a droit ou non à l'accès à l'exercice de la pêche.
Je pose la question, encore juste 30 secondes, je pose la question parce que dans les documents du monde musulman, il y a les trois droits, le droit jurisprudentiel ou le droit religieux, ensuite le droit de l'État, mais le droit coutumier a toute sa place aussi, et souvent c'est incorporé dans le droit religieux ou dans le droit de l'État. Ce n'est pas le cas alors.
En Espagne, les us et coutumes, se réduisent à la ville de Valence pour ce qui est le tribunal de las Aguas. Donc c'est une juridiction qui est tout aussi officielle que toute juridiction normale et qui règle le conflit de l'usage des eaux dans la Huerta, donc c'est la zone agricole de la région de Valence. Et c'est un tribunal qui fut mis en place sous l'occupation mauresque. Donc c'est un tribunal qui a déjà plus de 1000 ans. On a la même chose à la région de Murcia, à Murcie. Là, ce sont les tribunales de los buenos hombres. C'est le même cas, usage de l'eau pour l'irrigation des champs. Et c'est tout. Le reste de l'Espagne, on a ce qu'on appelle le derecho foral, le droit foral. Donc ces droits spécifiques, mais là alors ils sont plus continus, ils sont écrits au Pays Basque, Navarre, Galice, et ça traite comme par hasard justement des questions successorales. Mais là, pour arriver à votre question, les juges ont préféré se limiter au thème de la légalité professionnelle parce que la jurisprudence est établie tant au niveau international comme au niveau communautaire, se référant aux directives et aux règlements communautaires et la Constitution espagnole. Ils ont évoqué, c'est assez curieux parce qu'on ne trouve pas ça, ces références américaines, dans les autres tribunaux espagnols. Donc c'est un juge, entre guillemets, un petit juge valencien, qui sensibilisé au droit américain et la affirmative action, s'est inspiré directement de ce texte-là. Et enfin, pour ce qui est de la question du droit à la propriété, l'accès des femmes au droit à la propriété en général, c'est régulé par le Code civil espagnol. J'ai eu du mal, franchement, j'ai eu du mal à trouver d'autres cas dans la jurisprudence espagnole pour voir justement des problèmes, des inégalités d'accès. Le cas de El Palmar, ça fait l'objet d'une couverture médiatique sans précédent sur toute l'Espagne. Et donc, c'est un des quelques cas où nous avons encore souffert cette discrimination flagrante entre hommes et femmes.
La question de Rudin, tu as eu une réponse? Il y a eu une réponse à la question?
Il faudrait parler avec le micro si vous parlez. Parce que,
oui, ouais. Tu voulais dire quelque chose? Je reprends le micro.
Oui, mais très, 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 très brièvement, si vous voulez reprendre la parole, mais très brièvement, madame. Oh.
Ici.
Par rapport à la France et même plus, vous avez l'air de dire que les juridictions quand même étaient anciennes sur les associations à propriété avaient été assises très longtemps, parce que vous parlez de 2006. Le franquisme a apparemment rien empiré. Enfin, je ne sais pas, ma question c'est qu'est-ce que le rôle du franquisme dans ces discriminations, parce que apparemment on n'avait pas trop bougé de juridiction ancienne. Et la modernité maintenant, comment ça se passe?
Ben, la modernité, elle se passe, comme je l'ai mentionné, douloureusement à travers de la violence du genre. Il fut une époque, mais même encore maintenant, tous les deux mois, dans la presse, dans les médias, on entend parler d'un assassinat dans le cadre d'une relation conjugale ou affective. Et donc ça a marqué tellement la société espagnole que donc vous avez parlé de la loi de 2006 qui traitait de l'ordre succession et titre nobiliaire, mais en 2007, donc un an après, le législateur espagnol a adopté une loi constitutionnelle, l'équivalent de la loi constitutionnelle française, et qui traite de l'égalité homme-femme dans tous les secteurs de la société, au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social. Vous avez appris que nous avons un nouveau gouvernement en Espagne, 11 femmes, 7 hommes. Maintenant, oui. Reste à voir si c'est le phénomène Alain Juppé et ses jupettes. Ça, on verra bien. Mais c'est un signe quand même du changement des mentalités, du rôle de la femme et de l'égalité homme-femme dans tous les secteurs de la société espagnole.
Désolée de...
Oui, donc suite à suite à la question de, des assassinats dans les familles, avec assassinats des enfants, etc., on a eu des manifestations immenses dans toutes les villes d'Espagne.
Une grève des femmes aussi, non?
Oui. Mais oui, il y a eu une grève des femmes. L'histoire, enfin, il y a de ça un mois, plus d'un mois, mais il y a eu un procès à un mois contre 4 ou 5 hommes qui avaient violé une fille lors la fête de Saint-Fermin, je ne sais pas comment dire, enfin, les taureaux dans le Pays Basque. Oui. Et un des juges s'est prononcé en disant qu'en fait, il ne s'agissait pas d'un viol, mais seulement d'un abus sexuel. Du coup, il y a eu une réaction massive. Non, les féministes étaient très minoritaires à ce niveau-là. Enfin, la société espagnole a réagi, mais c'est l'actualité. Enfin, c'est, voilà.
Désolée, parce qu'on part
Mais...
sur des
Merci beaucoup.
Sujets. Il va falloir qu'on...
On va avancer session, oui. Ah oui, oui, excusez-moi.
Ah oui, bien sûr. Sinon, les autres n'auront pas le temps de parler.
Les termes, les terres agricoles aux femmes et aux hommes. Tout ce qui était acquis en famille était divisé en deux. Tout ce qui était le contrat de dot de chacun arrivait entier à l'enfant aîné du sexe en ligne parallèle pour les îles. Hein? Ça, c'est pour les îles. Et, alors, les dot et droits de succession, oui, dans les îles, c'est la même chose. C'est la dot. C'est au moment du mariage, c'est le patrimoine dévolu entier. Les parents ne gardent qu'un petit truc pour leur vieillesse avant l'institution de la retraite, une toute petite chose qui n'avait pas de valeur enfin, réelle, grande.
Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous et toutes les intervenants.